Découvrir Hélène Pedneau. Série de balados sur les écrits et la vie de Hélène Pedneau, regroupant des lectures d'œuvres et des extraits d'entretiens avec des personnes qui l'ont côtoyée. Deuxième série, La douleur des volcans. Quatrième épisode. Jour de pleine lune. La porte de la véranda ne fermait pas bien, mais claquait sec. Le soleil était là, ce matin. Encore hier, il était venu s'installer dans les yeux de Luna. Ami l'avait vu. Prudente, elle était allée vérifier s'il brillait dehors. Non. Il était là, dans les yeux de Luna. Elle s'est sentie privilégiée d'être l'unique témoin de ce phénomène. Elle ne l'avait dit à personne, pas même à Luna qui ne s'en doutait pas. Elle avait toujours su comment faire pour garder un secret, vraiment secret. Elle s'en félicitait aujourd'hui. Elle ne prévint surtout pas les astronomes. Ami descendit la pente douce qui s'étirait jusqu'au lac, lui-même étiré on ne savait jusqu'où. Luna et elle s'y étaient risquées un jour, à travers les nénuphars en fleurs jaunes et les plantes aquatiques dont elle ne savait pas le nom, qui s'accrochent aux canaux en ondulant. Mains, serpents ou vahinés, difficile à dire. Elles eurent peur et rebroussèrent chemin, les images devenant trop fortes. La fin du lac resta inachevée. Elle continua de descendre la pente doucement jusqu'à l'arbre, le doyen de la rive. Elle s'arrêta un instant pour repenser au soleil dans les yeux de Luna. Le soleil lui-même avait choisi le corps de Luna. Ça ne fera pas les nouvelles. Qui croirait ça ? Elle le voyait encore bavé de bonheur, débordé de tous les pores de sa peau fine. Il en sortait en filaments de verre blanc. Elle se souvint du verre de Murano, près de Venise, qui s'étirait en spaghettis paresseux et transparents. Le soleil sortait à foison, revenait par le sourire, glissait sur l'épaule opale de Luna où la chemise oblique avait laissé un triangle lascif, faisait un peu d'ombre et revenait prendre les yeux de Luna pour des hamacs. Un fou. Ami riait de son manège. Luna riait aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Le soleil était là, à son insu. Ça n'avait pas d'importance puisque leur rire s'accordait. Elle arriva près de l'arbre, sortit le fil de sa machine à écrire, planta la fiche dans le tronc à l'endroit prévu à cet effet et se cala le dos confortablement entre deux fissures de l'arbre. Elle laissa monter la sève un instant et alluma la machine. La veille, elle avait décidé d'écrire et c'était le premier jour. La veille, elle avait vu le soleil dans les yeux de Luna pour la troisième fois et elle s'était enfin décidée à écrire. Elle finit toujours par bouger quand on insiste comme ça. Elle n'aime pas avoir l'impression de se faire prier. La veille aussi, c'était le 10e anniversaire de la mort de son père, un 29 mai chaud. La veille avait été une journée chargée. Elle ne savait pas du tout ce qu'elle allait écrire, alors elle prit l'ascenseur vers le sous-sol. Elle ramassa un peu de sa propre chair au passage et en fit des lignes. À 5 ans, elle voulait écrire. Son rêve est pratiquement plus vieux qu'elle. Elle a fait de multiples détours, elle n'est pas simple à son grand désarroi. Elle aime aimer et être aimée, rire et être ri. Elle confond d'ailleurs souvent les deux. Vu que l'absolu n'existe pas dans la vie, c'est la seule chose qui l'intéresse. C'est pour ça qu'elle veut écrire. Et pour aimer les gens. Elle aurait pu tout aussi bien devenir missionnaire ou Lancelot du Lac. Ce n'est pas une raison pour ne pas écrire, il y en a bien assez comme ça de raisons. Elle n'alla pas plus loin. Le visage de Luna venait tout juste de s'interposer entre sa feuille, ses yeux et ses doigts sur le clavier. La musique de Luna enterra ses morts d'un coup. Elle se relut. Elle se cala plus fort contre l'arbre et poussa un soupir. La musique de Luna revint, comme à chaque fois qu'elle pensait à Luna. La musique s'orchestrait. Le corps d'Ami possédait un transistor qui s'allumait tout seul au visage de Luna ou à la voix voilée de Luna. Il était branché, aurait-on dit, sur l'histoire de la musique et des plus beaux mots jamais chantés. Il ne connaissait pas les hit-parades. Ça ne prévient pas, ça arrive, ça vient de loin, chante une femme rauque, un saxophone déchiré au fond de la voix. Ami fredonne. Elle vient de débarquer dans le présent sur ses deux pattes et son corps n'a pas bronché. Une gymnaste. Elle ne peut jamais oublier Luna. Elle n'essaie même pas de le faire, ce serait trop épuisant. Elle n'a jamais envie non plus de chasser l'image de Luna quand elle vient. Cela étant admis, elle connaît Luna depuis 15 jours et n'arrive à penser à rien ni personne d'autre depuis. Il faut pourtant mettre les poubelles au chemin, réparer la moustiquaire de la véranda qui baie sur deux déchirures, manger, dormir, et puis quoi encore? On n'a pas que ça à faire. Elle ne pense à rien d'autre, mais elle sait encore prendre des décisions. Elle se rassure comme elle peut. Ami pense à sa rencontre avec Luna. Elle se risque au jeu, on verra bien. Je n'avais envie de voir personne ce jour-là, alors je suis allée au café Cherrier manger un confit de canard. Je lisais le menu pour la forme en attendant le garçon. Quand mes yeux ont croisé le regard d'une femme en face de moi, seule à sa table devant un kir probablement royal. Manifestement, elle était grippée. Son nez coulait et elle se mouchait sans arrêt. Elle entassait les Kleenex en boule dans son sac à main. Je n'ai pas du tout pensé qu'elle pouvait avoir de la peine. Je me suis levée et me suis assise devant elle. « Avez-vous l'heure ?»« Il est 5h20. » Elle me répondit en sortant de sous sa manche de chandail ample, une montre Swatch, où les aiguilles trottaient, affolées, sur fond de tableau de Toussignan. « Je m'appelle Luda. Et vous ?» Elle avait la grippe. Son M était un B et son N un D. Je l'aurais comprise dans n'importe quelle langue, aphasique même. Ce fut ainsi que je rencontrais Luna, je le jure. Nous étions jumelles de bien avant nos corps et nous ne nous quittâmes plus. L'esprit d'Ami revint à l'arbre, à la véranda, au lac. Elle quitta le jeu et le présent pour se reposer un peu. Il était midi. Luna dormait encore. Luna dormait comme elle respirait, le rêve étant son élément naturel. Ami éteignit sa machine à écrire. Le lac avait ses rides. Elle eut l'impression d'entendre un chevreuil se mourir d'amour. Mais ce pouvait tout aussi bien être un braconnier qui voulait qu'un chevreuil croie ça. On ne sait jamais avec les plaintes d'amour. Quand on est un chevreuil, en tout cas. Ami se leva lentement. Son t-shirt resta accroché à l'arbre. Elle se déprit, débrancha sa machine et se demanda subitement combien de temps il aurait fallu pour qu'elle fasse corps avec l'arbre. Il était trop tard. Elle s'en était déjà arrachée. Elle vérifierait une autre fois. En remontant vers la maison, elle se demandait comment elle allait se faire un espresso sans réveiller Luna quand elle l'aperçut, debout, à travers la moustiquaire de la véranda. Luna n'avait pas le soleil dans le corps cette fois. Elle était trop endormie. Mais il s'en était fallu de peu. Ami recommença à respirer, distraite un instant de son système respiratoire. « As-tu bien dormi ?»« Très bien. » « Veux-tu un café ?»« Oui. » Qui disait quoi n'avait pas d'importance. Leurs phrases étaient courtes, elles auraient pu aussi être muettes. J'ai écrit. Je le savais. Quoi ? Ma vie au complet en quelques lignes. Tu vises le condensé ? Oui, mon père lisait le Reader's Digest. C'est héréditaire alors. C'est ça. Une pincée de sucre et beaucoup de lait. Je sais. Elle savait toujours tout, surprenant. Après le café Charrier, elles avaient décidé de vivre au présent. La plupart du temps, elles y arrivaient. Mais Ami avait du mal. Son corps avait tendance à se métamorphoser en petit animal frileux et sa tête disparaissait régulièrement sans laisser d'adresse. Quand elle revenait, sa tête était allée glaner des renseignements à droite et à gauche dont Ami ne savait que faire. Le corps d'Ami était l'objet principal de sa peine principale. Elle ne pouvait jamais lui faire confiance. Il n'avait pas de fond. Le bruit de la cafetière qui moussait le lait ramena la tête d'Ami à sa place. Cette fois, avec une information qui la fit trébucher. Elle renversa tout son bol de café sur sa tenue de jogging rose et vert. « Oh !» dit Ami. « Attends !» dit Luna, en apportant le rouleau complet de Scott Towel. « Je suis bête et maladroite. »« Mais oui, c'est la pleine lune ce soir. »« Mais non, tu as le droit d'être maladroite. »« Je te dis !» Tu es bien nerveuse. C'est rien. Un nuage. Lequel ? Un cumulus nimbus en forme de toit. Oh ! Le nuage passa, une armée d'anges, et elles se mirent à entendre les mouches voler. Il faudrait certainement faire réparer la moustiquaire. « Regarde-moi. » Luna n'avait pas l'habitude de commander. « Je te vois. Mais tu as les yeux fermés. Regarde-moi. »« Je te vois très bien. Ne te fie pas aux apparences, mes yeux ne se ferment jamais sur toi. Même quand je dors, tu es là. Ma vision supérieure, ma vision intérieure. Quand je te regarde avec mes yeux, c'est un surplus. » Ami en avait dit beaucoup à la fois. Elle était subitement fatiguée. Elle avait envie de dormir. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ami s'en voulait d'avoir quitté le présent. Luna venait de la rejoindre et souffler avec sa question. Parfois, Luna passait à l'action. C'était toujours subi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Répéta Luna pour gagner du temps. Qu'est-ce qu'on va faire ? Répéta Ami après Luna pour être au moins dans la même question que Luna. On va d'abord continuer à se connaître, je crois. Oui, mais comment ? Ami gardait toujours ses yeux fermés pour mieux voir Luna. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Luna était optimiste. Elle oubliait que le corps d'Ami était un mercenaire forcené. Oui, mais comment ? Ami était en train de devenir un disque rayé. On verra. Je ne demande pas mieux que de voir avec toi, mais quoi ? Tu n'es pas patiente. Ma patience est aussi longue que la vie d'une orange dans ma bouche. Tu parles bien. Je parle trop. Avec Luna, Ami ne savait pas bien se taire. Elle transformait tellement tous ses gestes en mots que c'en était désolant. Les rares fois où elle se taisait, son corps se mettait à hurler et elle devait l'amener dehors, tout à fait cessante. Ami parlait, parlait, alors que la seule chose qu'elle souhaitait était de savoir se passer de mots avec Luna. Elle parlait, parlait, au lieu de prendre Luna dans ses bras. Au lieu de lui caresser le dedans du bras, au lieu de cacher ses doigts dans ses cheveux fauves, au lieu de couler par le fond et de se perdre corps et biens. Elle parlait, parlait. Elle changeait tout en mots, le vin en eau. Elle provoquait parfois des avalanches. Luna elle-même trouvait qu'Ami savait parler beaucoup. Elle n'avait jamais trouvé ça suspect. Luna était une esthète et les mots d'Ami étaient beaux. Il faut dire que même abondant, Ami les choisissait un à un quand elle les adressait à Luna. Ami avait pourtant la sensation d'être muette. Les mots s'enserraient autour de son cou en foulard trop serré. Les mots voulaient la peau d'Ami et Ami voulait le corps de Luna. Les mots se débattaient et mordaient Ami parce qu'elle voulait qu'ils soient ce qu'ils ne sont pas. Elle leur demandait l'impossible. Mais les mots n'acceptent jamais d'être des champions du monde toute catégorie. Elle exigeait d'eux qu'ils soient ses doigts, sa langue, ses mains, sa peau. Elle exigeait qu'il prépare longuement des caresses vertigineuses, qu'il se frôle au corps de Luna comme des chats insatiables. Elle vivait là une terrible déperdition de chaleur. Elle vivait en dessous de leurs moyens. C'est alors qu'Ami perdit la parole. Elle abandonna sa tête facilement à l'épaule de Luna et ne bougea plus. Luna prit délicatement le cou d'Ami entre ses longs doigts écartés et glissa sa main dans ses cheveux. Elle prit la parole qu'Ami avait abandonnée, au sens strict. « J'ai des loups plein mes rues. Je sors de mon corps la nuit pour ne pas qu'ils sentent mon odeur. Et tant que je ne sais pas si je peux les faire manger dans ma main, je ne peux pas t'ouvrir la porte. Non, tu ne peux pas les dompter. Tu ne peux pas les tuer. Un jour, j'aurai raison d'eux, mais je ne sais ni quand ni comment. Je préfère que tu m'accompagnes à portée de voix. J'ai peur dans le noir. Je te demande l'impossible. Y a-t-il autre chose à demander ? Tu me le donneras. » Ami ne bougea pas. Elle n'ouvrit pas les yeux. Elle resta là. Luna parla longtemps encore. L'heure avait noirci. Elles s'étaient croisées une nuit en panne d'enfance à 4 heures du matin sur la même route déserte. Elles étaient consanguines. Avec la menue des mots dans son corps, Luna apprenait la lenteur de la goutte d'eau qui creuse le marbre. Ami apprenait la lenteur de Luna. Elles iraient en Italie ensemble un jour, quand elles pourraient se servir de leur corps. Elles feraient des voyages pour être bien certaines que toutes les mères ne se ressemblent pas. Ami rêvait de faire des reportages photos dans les rêves de Luna pour écrire des livres exclusivement biographiques avec preuves à l'appui. Après cette journée, qui dura bien plus longtemps que les heures réglementaires, elles n'eurent plus le temps de dormir. Elles ne se quittèrent pas.
Un extrait. Soulèvement, quel beau mot. Pour se soulever, il faut forcément se mettre debout. Je vois une foule de femmes qui se soulèvent comme une belle vague de fond.
Le baiser rouge. Dans l'encoignure d'une porte de salle de bain. Es-tu prête? Dans 2 minutes, il me reste les cheveux à dépeigner, je vois. Très drôle, tu dis ça à chaque fois. Parce que c'est beau, sinon je ne dirais rien, tu le sais bien. Je ne sais jamais rien, tu le sais bien. La terre passe son temps à s'ouvrir sous mes pieds, tu le sais bien. Et toi, tu passes ton temps à me remplir les crevasses. Tu mens, tu sais toujours tout, mais tu aimes tellement les surprises que tu fais mine de ne rien voir, c'est subtil. Et toi, tu adores remplir les crevasses parce que tu adores penser que tu m'empêches de tomber dedans. C'est ton petit côté Lancelot du lac. C'est subtil. Oui, c'est très subtil. Luna. Oui. En ce moment, je retiens à deux mains une furieuse envie de t'enlever ton rouge à lèvres. Quoi? En ce moment même, j'ai une furieuse envie de t'enlever ton rouge à lèvres. Tu délires. Tu dis toujours que tu aimes faire de la fièvre. Tu es tombé sur la tête? De la hauteur où je suis, je ne me fais jamais très mal. Je ne comprends rien à tes histoires. Qu'est-ce que tu as ce soir? On ne peut pas aller au cinéma tranquille? Il faut que tu écrives un scénario avant de partir? Tu me déconcentres dans mon savant dépeignage. Va prendre l'air. Excuse-moi. Je suis en pleine crise de spontanéité. Ça va me passer. Dans la cour, Amy se berce lentement dans une balançoire à 4 places qui grince. Autrement, c'est le silence. Elle regarde droit devant elle. Luna s'approche lentement. Elle arrête la balançoire et s'assoit à côté d'Amy. Elle pousse la balançoire avec leurs pieds pour repartir le mouvement. Elle regarde toutes deux droit devant elle. Amy? Oui. Est-ce que tu viens de me faire des avances?
Non, pas du tout.
Alors qu'est-ce que c'était, dis-moi? Une furieuse envie de t'enlever ton rouge à lèvres, je te l'ai dit. C'est pourtant simple à comprendre. Tu es en train de me dire que je complique tout? Voilà. Tu vois que tu peux facilement savoir des choses qui ne sont pas dites textuellement. Tiens, tu ne me remplis pas les crevasses ce soir. La terre vient pourtant de s'ouvrir sous mes pieds. Qu'est-ce que tu attends pour voler à mon secours? As-tu besoin d'être sauvée, princesse? Tu as l'air d'avoir le contrôle parfait de la situation et de ton rouge à lèvres, ce qui n'est pas mon cas, quoi que tu en penses. Et je ne porte jamais de rouge à lèvres. On mord? Tu es prête? Tu as tes clés, ton keul, à la bonne place, ton portefeuille? J'ai tout ça, et j'ai aussi mon rouge à lèvres, je l'ai encore. Je ne suis pas encore aveugle à ton sujet. On y va? Tu abandonnes vite? Je n'ai pas envie de jouer, viens-t'en. As-tu remarqué comme l'air est exactement à la bonne température? Il n'y a pas de différence entre le dedans du corps et le dehors. Oui. Je remarque ces choses-là aussi. Il reste 10 minutes avant le début du film. Ça nous a jamais fatigué de changer d'idée. On en tire même un certain plaisir. C'est vrai. Mais pas ce soir. Qu'est-ce qu'il y a de différent ce soir? Je te trouve bien énervée. Ça va te donner chaud. Je me demande vraiment comment tu peux à la fois vouloir m'enlever mon rouge à lèvres et aller au cinéma. Excuse-moi, je suis mystifiée. Tu joues avec mes nerfs. Non. Moi, quand j'ai envie... Tu peux être certaine que je n'ai pas besoin de permission en double exemplaire. C'est difficile à croire à tes envies. Comment veux-tu qu'on y réponde? Ce n'est pas ce soir que je vais régler mon problème. Viens-t'en. Tu recules? C'est décevant. Tu voudrais que je ne recule pas? Non. Tu joues. Si j'avais fait le moindre geste pour t'enlever ton rouge à lèvres, tu te serais drapée dans ta dignité et tu te serais enfuie, dans tes cheveux ou ailleurs. Qu'est-ce que tu en sais? Tu viens à ma place maintenant? Tu as mis ton ensemble bleu Italie et ton maudit rouge à lèvres, alors on y va. Tu lances des envies en l'air et tu ne regardes même pas où elles tombent.
Jusqu'à tout récemment, j'avais un libre arbitre que je pouvais exercer à mon gré. Je ne crois pas l'avoir rendu depuis les 5 dernières minutes. Tu refuses le risque et tu refuses la confiance. Ça bouge mal, tout ça. Dois-je comprendre que tu serais sensible à mon envie ? Tu ne comprends rien. Je pourrais, par exemple, ne plus avoir du tout envie de porter ce foutu rouge à lèvres. Je pourrais, par exemple, avoir le goût de l'enlever ou de me le faire enlever. C'est pareil. Ce n'est pas pareil du tout. Le premier exemple concerne une main et un Kleenex anonyme. Le deuxième exemple est une invitation à une autre bouche. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une invitation, c'est une envie. J'aime bien l'idée de me faire déshabiller en commençant par la bouche. Je ne veux pas te déshabiller. J'ai faim de cette couleur, comme d'une fraise, c'est tout. Et de la bouche qui porte cette couleur, non ? Tu mens. Oui. Tu mens tout le temps, n'est-ce pas ? Oui. Tu devrais dire « oui, je mens tout le temps ». Oui. Dis-le. Oui, je mens tout le temps. Enlève-moi ce rouge à lèvres, il me donne chaud. Si tu ne le fais pas, je vais le faire moi-même, je n'attendrai pas. Tu exagères. Oui, enlève-moi ce rouge à lèvres, je n'irai pas au cinéma en bleu Italie. Dommage. Non, ce rouge à lèvres n'était là ce soir que pour m'être enlevé. Tu as raison, je veux que ce rouge à lèvres me soit enlevé par toi. Qu'est-ce que tu attends ? J'ai le trac. Moi aussi. Risque. Je sais moi aussi remplir les crevasses quand la terre s'ouvre. C'est toi qui m'as appris, tu te souviens ? Oui, je me souviens. Le rouge à lèvres brillait dans l'espace, suspendu. L'heure et la lumière n'avaient plus d'impact sur elles, plus rien. Elles étaient devenues, on aurait dit, invisibles autour de leur bouche. Invisibles et bruyantes. De ces genres de bruits qui n'affectent pas le silence comme des tempes qui battent ou la circulation du sang qui s'accélère. Quelque chose entre elles venait de casser. Une vitre, quelque chose qui ressemblait à une paroi, quelque chose venait de lâcher, d'abandonner sa position droite, le cou hautain. C'est d'abord dans leur cou qu'elles le sentirent, puis dans leurs épaules. C'était le déferlement fragile de l'eau à marée basse qui prend la nature de l'huile dans son épaisseur. Il y a toujours de l'eau dans toutes les histoires pleines. Leurs têtes suivirent le mouvement. Elles continuèrent de parler doucement à travers la disparition lente du rouge à lèvres. Elles se dirent des choses qui ne concernaient que leur bouche, rien d'autre. Il y avait tant à dire. Ni l'une ni l'autre n'avaient connu cette lenteur avant. Elles n'auraient même pas pu se souvenir comment elles étaient arrivées à cette lenteur si on leur avait demandé. Elles se parlaient pour la première fois. Le rouge à lèvres était disparu depuis longtemps quand elles s'endormirent, à l'aube.
Est-ce que c'est le fait que, disons, sa contribution, pourtant la contribution écrite, elle est substantielle, qu'il n'y a pas eu de stabilité au niveau des véhicules, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Alors, mais c'était quelqu'un aussi de l'oralité, c'était quelqu'un qui... Et elle a fait beaucoup de chroniques à la radio, à la télévision, bon. Ça, c'est plus éphémère, ça. C'est-à-dire, c'est plus... ça passe et ça disparaît. Parce qu'une bonne partie de sa contribution est orale.
Gros plan. Le baiser du 20 avril 1979, 17h. Nos bouches étaient si proches que le baiser devait être commencé depuis longtemps sans qu'on le sache. Tu as cassé un mot en miettes pour me dire « embrasse-moi ». Le baiser était déjà bien vivant quand tu as dit « embrasse-moi ». Il était évident. Je n'ai rien dit. J'ai regardé tes yeux de plus près en fronçant vaguement les sourcils. Je suis arrivée à tes lèvres facilement. C'était le plus court chemin. Les yeux sont le plus court chemin d'une bouche à une autre. C'est géométrique, le théorème le plus compris au monde. Je n'ai pas touché tes lèvres tout de suite, même si j'en étais si proche qu'une feuille de papier de soie n'aurait pas pu passer entre mes lèvres et les tiennes. J'en ai fait le tour, lentement. Entrouverte, ma bouche respirait sa pareille. Ce fut long. De la longueur du temps amoureux. Je ne pouvais plus quitter tes yeux. Ma bouche continuait sa lente reconnaissance. À force de se respirer, nos lèvres ont séché. J'ai mouillé doucement tes lèvres avec ma langue et j'ai mouillé ensuite mes lèvres sur les tiennes, lentement. C'est à ce moment-là que nos lèvres se sont jointes, deux morceaux de puzzle. C'est à ce moment-là que nous avons appris le baiser qui se vivait entre nous. On ne se touchait pas d'ailleurs, que des yeux et de la bouche. Pourtant, nous étions liquides. Pourtant, des mains poussaient dans nos ventres et allumaient des tisons un à un dans le réseau du sang. Nous étions un seul système respiratoire, insatiable, inopérable, incurable. Nos lèvres bougeaient sans se perdre une seconde. Nos langues bougeaient, emprisonnées. Mais nos corps ne bougeaient pas. Ta tête contre le coussin du sofa et moi, penchée sur toi. Je ne sais plus comment nos lèvres ont réussi à se séparer. Je me souviens que nous avions le souffle court et que nos poitrines se soulevaient presque à se toucher au même rythme. Il y avait des sons dans nos bouches, des haches aspirées surtout, des petites brises qui se perdaient à l'intérieur des joues. Il n'y avait pas tellement de ces bruits mouillés qui caractérisent les baisers avides, passionnés. Nous étions pourtant avides, mais nos yeux étaient savants dans l'art de nous orchestrer. C'est peut-être cette fois-là que je t'ai raconté avec le plus de détails que je t'aimais. Dehors, c'était le mois d'avril. Vous venez d'entendre un morceau de « La douleur des volcans » de Hélène Pedneau, ainsi que des éléments d'entretien avec Ariane Aymon et Gérald Larose. Redécouvrir Hélène Pedneau, une série de balados proposés par Marion Cousineau. Lecture, entretien et montage sonore, Marion Cousineau. Thème musical, Jean-François Groux,